Je me présente, je suis Eric Allard, professeur de lettres histoire en lycée professionnel et je travaille sur l'archéologie du Front d'Orient depuis 2009 avec une équipe franco-macédonienne. L'opération a commencé en fait le projet par des travaux de jumelage scolaire entre la région Basse-Normandie et la République de Macédoine. Après avoir pris contact avec nos collègues macédoniens et pendant plusieurs années avoir impliqué les élèves dans un travail de prospection et d'enquête orale sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'un énorme potentiel archéologique méritait une étude suivie. Et donc depuis plusieurs années, maintenant une dizaine d'années, le travail est fait sans élèves et uniquement avec différents intervenants provenant de différentes institutions, dont l'Université de géographie de Caen. Voilà. Alors, je vais commencer par présenter le contexte en fait de l'archéologie du Front d'Orient, qui n'est pas forcément familier à toutes les personnes présentes ici. Donc, le Front d'Orient, c'est ce qu'on appelle à partir du novembre 1916 jusqu'en septembre 1918 la partie orientale européenne où les Alliés vont tenter de porter secours à la Serbie tardivement à partir de la base de Salonique et où les armées vont se retrouver en fait enterrées dans un front stabilisé dans les montagnes du sud de l'actuelle République de Macédoine. Un front multinational, un front en fait où on va avoir peut-être la plus grosse concentration de population et de troupes venant du monde entier de tout le premier conflit mondial, puisqu'on a les grandes puissances France et Grande-Bretagne avec leurs empires coloniaux, mais on va trouver également des belligérants locaux qui s'inscrivent dans la suite des guerres balkaniques de 1912. Le secteur sur lequel nous travaillons est un secteur d'environ 20 km sur 20 km qui se situe donc près de la frontière grecque sur la municipalité de Novatsi. Novatsi, c'est une entité administrative d'environ 700 km² qui regroupe aujourd'hui 41 villages de montagne pour faible quantité d'habitants puisque c'est une région qui a connu un grand exode rural. Et les paysages sur lesquels nous travaillons consistent à la fois dans des paysages de montagne du massif de Marjovo et également une portion de la plaine qui a été également objet des premières lignes du conflit. Grand contraste sur le plan du contexte social et géographique dans ces régions. Nous avons la troisième ville de Macédoine, Bitola, qui était à l'époque située sur la ligne de front et qui comprend aujourd'hui 100 000 habitants, qui a été extrêmement impactée par la guerre, mais qui aujourd'hui ne présente plus vraiment de vestiges ni de support de recherche de terrain. Par contre, l'arrière-pays dans les montagnes, dans des altitudes d'environ entre 1000 et 1600 mètres, sont encore peuplés d'une population résiduelle, très très pauvre, et qui a gardé, on aura l'occasion de voir, des pratiques, et des témoignages et des vestiges assez intéressants. Donc le paysage en fait ressemble à ça. Donc de la montagne balkanique, des villages abandonnés, en déprise démographique depuis les années 20, même si entre deux guerres, les autorités serbes et yougoslaves ont tenté de repeupler la région, pour des raisons économiques et des raisons de difficulté de la vie, les habitants ne sont pas revenus et aujourd'hui on a affaire à une population résiduelle de personnes très âgées, qui sont les témoins de deuxième génération du conflit et qui pour la plupart ont énormément de choses à dire, mais malheureusement dont la tradition orale et la mémoire n'a jamais été prélevée. Les conditions de vie sont très très difficiles, autant à l'époque qu'aujourd'hui, puisqu'on a une amplitude thermique entre moins 35 degrés l'hiver jusqu'à plus 50 degrés l'été. Des régions qui n'ont aucune infrastructure moderne de type adduction d'eau, électricité, même simplement réseau routier. Et il n'est pas rare, par exemple, de voir l'été les villages se faire attaquer par les loups. Les habitants mettent les peaux de loups capturés ou tués à sécher sur les portes des maisons. Et on vous conseille, quand vous allez prospecter sur le terrain, de vous munir d'un bâton, car on n'est jamais à l'abri de rencontrer des ours. Les populations résiduelles dont je parlais, donc des gens très âgés, dont la moyenne d'âge est entre 80 et 90 ans, qui sont donc les enfants des témoins du conflit. Et des gens qui ont vécu en fait toute leur vie un peu en marge du XXe siècle, puisque même le régime yougoslave, la Seconde Guerre mondiale, après la dissolution de la République fédérale yougoslave, tous ces événements pour eux ont été assez lointains. La plupart d'entre eux vivent dans une situation de semi-autarcie dans les montagnes. Et l'approche est souvent assez compliquée. C'est-à-dire que non seulement il y a la barrière de la langue qu'on a pu franchir grâce à des interprètes locaux, mais également, en fait, il faut un peu amadouer les personnes en leur faisant des cadeaux, en prenant le temps de discuter, de nouer des liens de confiance avant d'avoir vraiment l'information. La ville de Bitola, donc, qui se situe à proximité de notre secteur d'études dont je vous parlais, n'a pas réellement une conscience aiguë du potentiel de recherche de son secteur. On a bien un commerce de militaria qui se réalise par des brocanteurs qui vendent aux touristes quelques objets épars et pas toujours bien identifiés. Mais on a une autre pratique qui est, à mon avis, plus intéressante, c'est la permanence du réemploi, qu'on aura l'occasion de développer là, plus tard dans l'exposé. Donc je voulais vous montrer cet objet. Sur le diaporama, vous avez donc des objets qui sont vendus à des touristes qui sont dans une perspective clairement commerciale et de militaria. Mais dans d'autres secteurs de la ville, on a des marchés qui sont destinés aux locaux pour l'outillage agricole ou pour les usages domestiques. Et il n'est pas rare de trouver donc des gens qui vendent du matériel militaire de la Première Guerre mondiale, mais qui a été retaillé, adapté en outils ou en appareils du quotidien. Absolument pas dans une perspective patrimoniale, mais uniquement dans une perspective utilitaire. Et ça, c'est encore le cas, je veux dire, à l'heure où je vous parle, pour donner une idée de la permanence et la pérennité des usages du réemploi. Le front à proprement dit, donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on a en première ligne, des aménagements logistiques et de soutien qu'on a dans un arrière immédiat des premières lignes, donc sur une trentaine de kilomètres. Donc c'est une typologie de tranchées qui s'inscrit dans la montagne. Donc les tranchées sont creusées dans la roche, dans le granit. On a ici des lignes italiennes sur la côte 1050. Elles sont parfaitement conservées puisqu'il n'y a pas eu de grands aménagements ou de modifications qui ont... Le comblement ou les transformations en fait, sont quasiment nulles. Ces tranchées soit utilisent le relief naturel, donc des failles ou des lignes de protection et de circulation pour les soldats dans le potentiel géologique local, mais on a aussi un gros travail de creusement par explosif ou marteau-piqueur. Une idée du terrain, donc le même paysage en 1917 sur des positions de Bulgares. Vous remarquerez qu'on est dans un paysage essentiellement minéral, d'où toute végétation a disparu. Et cette problématique de l'impact environnemental du conflit sur le paysage va conditionner aussi d'énormes travaux logistiques que je développerai tout à l'heure. En ce qui concerne la plaine, qui était marécageuse avant la fin du premier conflit mondial, on a en fait des tranchées qui ont été également creusées, mais qui sont très difficiles à repérer et qui aujourd'hui ne sont pas réellement identifiables, si ce n'est par photo aérienne. Les structures ont été surtout conservées dans les zones de montagne. Alors, un exemple aussi de structures adjacentes aux tranchées, ce sont des abris troglodytes. Les premières lignes sont littéralement truffées de cavernes, de bunkers, creusés eux aussi à la dynamite et au marteau-piqueur. Donc vous avez en bas à droite la côte 809 avec des entrées d'abris individuels creusées par les troupes italiennes. Et à l'intérieur, donc, ça donne ce genre de structure. Donc des structures polylobées avec des chambres à fonction plus ou moins identifiées. Et puis essentiellement sur les lignes italiennes et bulgares, l'usage intensif du ciment. Nous avons également trouvé des traces qu'on pourrait parler, l'expression n'est peut-être pas heureuse, d'arc pariétal ou d'artisan. Ce n'est même pas de l'artisanat, là, c'est vraiment des pratiques étonnantes que la bibliographie en fait, ne révèle pas. Donc, des travaux d'impression de motifs régimentaires sur des plaques de ciment à l'intérieur d'abris italiens, qui sont relativement bien conservés. Les lignes bulgares présentent des différences, ainsi que les lignes allemandes, avec les lignes des armées de la Triple Entente, dans le sens où les Bulgares sont dans une position statique de longue durée et entendent rester le plus longtemps possible. Donc les aménagements de tranchées sont beaucoup plus développés, en particulier par la présence régulière d'abris en béton et cimenté, comme ceux que vous avez sur cette photo aérienne réalisée en 2017. Un zoom sur l'un des abris en béton. Et nous avons également pu observer des traces d'inscriptions bulgares. Des pratiques d'épigraphie qui sont inédites, qui n'avaient jamais été étudiées ni relevées par personne. Également des localisations de soutes à munitions correspondant à l'abondante documentation photographique réalisée par l'armée française. Donc nous avons plusieurs fois, dans plusieurs cas, réussi à localiser certaines structures par rapport aux photographies des lignes en activité en 1917-1918. Et puis un dernier type d'aménagement de première ligne aussi, c'est le logement des soldats en fait. Le fait d'avoir affaire à une guerre de montagne autorise dans les pentes non exposées au feu ennemi à construire des abris plus ou moins développés et élaborés, comme ceux que vous avez sur la photo en bas à gauche. Et ces abris ont été relativement bien conservés. Les locaux ont dépouillé tous les éléments métalliques ou en bois qui pouvaient être récupérés, mais les structures en elles-mêmes sont assez bien conservées pour des structures datant d'un siècle. Malheureusement, ce patrimoine n'est pas pris en compte par la recherche macédonienne pour des raisons diverses. Il n'y a pas de prise de conscience réelle de l'intérêt archéologique ou historique. Les moyens sont inexistants, voire insuffisants pour les traiter. Et en plus, la découverte en fait, de ce type de structure est très récente, puisque avant mes collègues et l'équipe dont je fais partie, personne en fait, n'avait jugé intéressant d'aller constater ça sur le terrain. Alors, nous avons aussi travaillé sur l'arrière immédiat, en particulier des bases aériennes. Bases aériennes que nous avons réussi à localiser, mais qui n'ont pas laissé de structure pérenne ou de mobilier particulièrement significatif. Par contre, pour les travaux d'aménagement logistique, qui sont une condition prégnante et vraiment très, très diffusée sur le front d'Orient, les armées françaises et serbes ont réalisé un énorme travail de génie civil et militaire, en particulier la construction de routes qui n'existaient pas, pour acheminer donc les hommes et le matériel pour la grande offensive de septembre 18. Donc des routes aménagées à partir de matériaux locaux, de la quartzite et du quartz, donc damées sur une bande de roulement d'environ 10 cm, avec une largeur de voie qui permettant le passage de deux camions en vis-à-vis, et qui, curieusement, un siècle après, se sont révélées mieux conservées et plus adaptées au climat que les routes bitumées actuelles, qui ont tendance à exploser en hiver avec le gel et à se déformer en été avec les grandes chaleurs. Également, autre type d'aménagement remarquable pour la Macédoine, c'est l'utilisation de téléphériques pour essayer de raccourcir les distances entre les pitons sur lesquels les soldats étaient positionnés. Ces téléphériques, pour la plupart, ont disparu, mais on en perçoit encore certains segments qui ont été récupérés et réutilisés par les locaux pour les traversées de rivières avant la construction de ponts routiers dans les années 60. Également, un gros travail local de construction de voies ferrées étroites de type de Coville, donc des rails d'écartement de 60 cm. Et les rails également ont été récupérés et réutilisés là, en bas à gauche dans une clôture de cimetière militaire serbe et à droite dans un élément annexe pour le téléphérique que je vous présentais tout à l'heure. Nous avons aussi rencontré plusieurs structures et sites intéressants concernant le traitement de la mort des combattants. Alors, un objet qui n'est pas une tombe, mais plutôt un cénotaphe ou un monument privé qui a été installé sur le site de l'aérodrome que je vous présentais tout à l'heure. En fait, c'est la seule trace d'activité militaire qui subsiste aujourd'hui. C'est une stèle commémorative qui a été probablement produite par la famille de deux aviateurs italiens écrasés sur le site en 1919. Et le territoire aujourd'hui est en grande culture céréalière et industrielle. Les gens qui utilisent les terrains respectent, en fait, donc, ne connaissent pas exactement l'histoire de ces deux pilotes, mais savent que la stèle est un objet commémoratif de la Première Guerre mondiale et l'entretiennent, du moins l'évitent quand ils se livrent à leurs travaux agricoles. Autre traitement de la mort particulier aussi, le cas des cimetières serbes. L'armée serbe alliée à l'armée française n'a pas les pratiques de regroupement des morts dans les années 20, et on a des cimetières provisoires en fait, qui deviennent des cimetières durables. Alors, pour la chronologie de l'histoire serbe, la Première Guerre mondiale, en fait, c'est la Troisième Guerre balkanique. Donc, les chronologies des monuments s'étalent entre 1912 et 1918. Voilà le cimetière de Skočivir en 1920, avec un bel effort de mise en scène, où on a à la fois une mixité entre des pratiques serbes, c'est-à-dire des stèles individualisées avec l'identité du défunt, et des stèles de différentes tailles d'ailleurs qui peuvent être financées par les familles, et puis des croix en métal blanche qui, elles, sont directement inspirées par les pratiques réglementaires de l'armée française, qui a évidemment beaucoup équipé et pas mal inspiré les pratiques militaires serbes. Alors ce cimetière en 1920, voilà son état actuel à gauche. On peut remarquer que le matériel métallique a été abondamment pillé et réutilisé. Et une autre pratique également un peu triste concernant le front macédonien, la présence, on va dire, de moins en moins épisodique de chasseurs de trésors qui vont aller au détecteur de métaux piller les tombes. Alors certaines pratiques, on a pu en fait mettre en évidence que des traditions orales ont relevé le fait que les soldats présents sur le front faisaient les prisonniers, capturaient donc les prisonniers, les dépouillaient de leurs biens les plus précieux. Et ces trésors, ces magots de guerre étaient cachés dans des endroits où plusieurs soldats sont revenus après-guerre pour récupérer leurs trésors. Et cette pratique en fait, a donné chez les locaux une légende, une tradition orale un peu déformée qui consiste à dire que les soldats enterrés dans les cimetières militaires sont tous porteurs d'uniformes ayant des boutons en or. Alors d'où vient cette légende? C'est que les combattants en fait, cousaient dans les doublures de leurs uniformes effectivement des monnaies, pas nécessairement en or, qui pouvaient leur servir en fait, de viatique en cas de capture. Une fois qu'un soldat était dépouillé de tout son matériel par l'ennemi, une fois en camp de prisonnier, s'il garde sur lui encore quelques monnaies cachées dans les doublures de ses uniformes, il peut négocier de la nourriture, des traitements particuliers. Et donc cette pratique est devenue en fait une légende, un mythe, et qui malheureusement provoque pas mal de dégâts sur les cimetières militaires comme celui-ci, qui sont évidemment moins gardés et moins respectés que les grands cimetières militaires français ou britanniques, qui eux sont mieux cadrés et surtout plus proches des grandes villes. Après avoir parlé des structures et de la ligne de fond, on va parler un petit peu du mobilier, du réemploi, du matériel. Donc, vous avez ici un échantillon de matériel individuel de soldats encore présent sur site. En haut à gauche, vous avez un quart et un bidon, pardon, une marmite du paquetage français 1917. La marmite et le bidon sont restés piégés dans des réseaux de barbelés. Alors, c'est pas une pratique qu'on doit aux locaux, c'est que les avertisseurs sonores étaient mis en première ligne pour pouvoir éviter les infiltrations d'attaques nocturnes ou de commandos. Et quand les locaux ont démonté les réseaux de barbelés pour les réutiliser de manière civile, ils n'ont pas pris la peine de décrocher les avertisseurs sonores. Donc, ils sont restés en place, en fait, dans les réseaux de barbelés sont encore conservés. Des pratiques aussi intéressantes de recyclage de matériel militaire. Vous avez en bas un couteau. Donc un couteau de berger qui est un appareil composite sur lequel on va voir un manche de baïonnette Lebel et une lame extrêmement travaillée de baïonnette autrichienne. Quant à la gaine, elle est faite à partir d'une autre baïonnette, puisque là on a affaire à du Mauser allemand. Donc on a trois types d'armement, de matériel militaire, recyclé en un seul pour un usage civil. Et en haut à droite, donc Gilles Prilot, qui a eu l'occasion de visiter le site il y a quelques années, qui vous présente une pelle française modèle sœur. Et la pelle est encore utilisée donc, dans un des villages de la boucle de la Cherna sur laquelle nous travaillons. Toutes ces pratiques et tous ces types de jeux en fait, sont très communs et relativement banals. Moins banal et plus complexe, en fait, dans l'identification du mobilier épars, c'est le matériel que vous pourrez qualifier un peu d'exotique, puisque je vous disais qu'on était sur un front très multinational, et là, par exemple, vous avez un bidon de dotation de l'armée impériale russe, ce qui complexifie un peu l'identification du mobilier par rapport à ce qu'on peut avoir sur le front occidental. Il faut savoir que l'impact environnemental des conflits a fait que dans les années 20, les habitants qui tentent de reprendre une activité agricole ou de reprendre possession de leur maison et de leur champ ne manquent de tout. Le bois en particulier fait défaut. Et donc on va avoir un recyclage des fusils qui vont être détruits pour utiliser le bois des crosses comme combustible. Et ensuite les canons sont emboîtés pour servir de piquet. Et le barbelé militaire, qu'il s'agisse du barbelé par grenade que vous avez en bas au petit maillage ou des grandes mailles carrées pour l'infanterie, donc va être utilisé de manière ingénieuse pour faire des enclos à bétail, des enclos agricoles. Et c'est une pratique encore qui est très courante aujourd'hui. Il faut savoir que les paysans macédoniens de ce secteur-là n'utilisent pas de barbelé contemporain. Il n'existe pas. Il n'y a pas de commerce de barbelé standard tel qu'on peut le trouver dans le monde agricole aujourd'hui en Occident. Tout se fait uniquement à partir du recyclage du matériel de la Première Guerre mondiale, qui est toujours actif. Question aussi prégnante sur le secteur que nous étudions, c'est la présence évidemment de munitions. Alors, il y a eu un gros travail de recyclage et de récupération des métaux qui a eu lieu. On estime qu'il y a deux générations de Macédoniens qui ont en fait qui n'ont gagné leur vie, n'ont travaillé que de ça après le premier conflit mondial. Mais il y a aussi des usages, on va dire, un peu plus exotiques, comme cet empennage de roquettes crapouillot que vous avez en bas à droite sur le toit d'une maison pour caler une cheminée. Et le problème aussi de ces munitions, c'est qu'on est dans une zone de forêt où régulièrement il y a des grands incendies estivaux. Et en 2007, les gens de la sécurité civile ont eu les plus grandes difficultés en fait, à maîtriser les forêts pour une raison simple, c'est que les obus bulgares sont en grande majorité des obus chimiques. Et donc des feux de forêt avec explosion d'obus sont déjà difficiles à traiter pour les pompiers, mais en plus, quand il y a le risque de diffusion d'hypérite, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Et ça s'inscrit ça en fait dans des phénomènes historiques qui sont bien connus, puisque la ville de Bitola, que je vous présentais tout à l'heure, a été la seule ville peuplée de civils qui a été bombardée avec des armements chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Et les locaux ont un souvenir très, très précis de l'événement. Et d'ailleurs, j'ai régulièrement des demandes de la part de Macédoniens qui me demandent quand la France va-t-elle venir décontaminer et débarrasser le territoire de ces pollutions chimiques explosives. Les locaux ont aussi un gros travail d'imagination et d'hybridation des pratiques, puisque là, vous avez une cochara, c'est-à-dire un grenier à céréales, qui est construit en grande partie avec les méthodes traditionnelles, la vannerie, la pierre sèche. Mais vous remarquerez que les poteaux en bois qui normalement tiennent le tressage, là, ont été remplacés par des queues de cochon, donc récupérés sur les premières lignes. Autre type de récupération, le travail des chaudronniers et des forgerons locaux qui vont utiliser par exemple les grenades comme élément décoratif, les rails comme élément de construction pour des barrières, et encore une fois, vous voyez en haut à gauche du canon de fusil pour tenir la barrière sur la clôture. On trouve également sur place du matériel, là, pas transformé, mais simplement abandonné par l'armée française, comme ce réservoir d'eau fabriqué à Saint-Dizier, que vous avez en haut à droite, et qui est resté en situation primaire et qui a été très longtemps utilisé par les locaux. Je parlais tout à l'heure du grillage par grenade, donc quelques exemples encore d'utilisation dans l'architecture du grillage par grenade. Sur la fenêtre en bas à droite, vous avez également une queue de cochon en latéral. Et puis des choses un peu plus ingénieuses, comme par exemple en haut à gauche, une pergola. Donc les rails de la voie étroite de tout à l'heure soutiennent un réseau construit à partir de queues de cochon qui soutient la vigne avec du barbelé. Et dans les maisons de reconstruction, on a également la présence d'éléments métalliques militaires, comme les queues de cochon que vous avez en bas à droite dans un étage, dans l'une des maisons de montagne du secteur que nous prospectons. Très fréquente aussi l'usage des tôles métro, en particulier pour les fours à pain, la proportion est parfaite et se cale parfaitement avec les pratiques locales. Et puis des choses un peu plus exotiques comme les caisses de munitions, donc les poignées des caisses de munitions ont été réemployées pour les portes de maison, donc c'est un cas qu'on trouve aussi très fréquemment dans les tentatives de repeuplement des années 20-30. Enfin, un phénomène intéressant, donc là vous avez affaire à un montant de lit métallique et deux têtes de lit métallique qui ont été découvertes à 10 km l'une de l'autre. Vous marquerez que c'est la même main qui les a produites, c'est l'artisanat local. Et le fait d'utiliser donc des grenades désamorcées comme pommeau de tête de lit, donc ça semble attester l'idée en fait qu'on a affaire à une production en série. Alors, est-ce que d'autres objets ont été produits également en série avec le même type de démarche? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse précise, mais c'est vraiment des aspects qu'on va continuer encore à étudier, à prospecter. Et pour conclure, donc, nos perspectives de prospection et de travail actuellement, c'est de compléter, de continuer à travailler sur la constitution d'un système d'information géographique où nous compilons à la fois les archives papier donc, existantes au service historique de la Défense, différentes productions familiales, privées ou personnelles, type journaux de soldats, albums photos, etc., avec nos propres prospections. Et donc, je remercie d'ailleurs mon collègue Jean-Michel Cador qui a initié ce travail de construction de systèmes d'information géographique. Nous avons également, sommes également impliqués localement dans des travaux de valorisation touristique et patrimoniale. Donc, nous avons fourni à la municipalité de Novatsi des données, du matériel pour construire des panneaux, permettant un peu de développer la connaissance de ça pour les différents touristes qui commencent marginalement, mais qui existent quand même à s'intéresser à ce front en Orient. Et puis, nous avons des problématiques intéressantes concernant des disparus, en ce qui concerne le traitement de la mort, puisque vous avez ici, par exemple, le cimetière militaire allemand de Prilep, dans lequel les autorités allemandes ont autorisé la Russie à avoir un cénotaphe, donc un monument vide. Plusieurs milliers de soldats russes se sont battus et sont morts, certainement, sur le sol macédonien avant la révolution de 1917 et le retrait du front. Mais aucun cimetière militaire russe n'existe en Macédoine. Donc, la question qui se pose... Il y a nécessairement des sépultures provisoires qui sont encore sur le terrain, qui doivent être certainement identifiables et localisables. Donc ça fait partie du type d'enjeu qu'on peut avoir pour nos prochaines recherches. Je vous remercie.